Chapitre 31. Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. Le prophète dans la prison de Liberty.
En son nom tout-puissant, nous sommes déterminés à endurer les tribulations comme de bons soldats jusqu'à la fin.
Épisode de la vie de Joseph Smith.
Le 1er décembre 1838, Joseph Smith le prophète, son frère Hiram et d'autres frères ont été transférés de Richmond, Missouri, où ils étaient incarcérés dans une maison de rondins à la prison de Liberty, Missouri. Ils y sont restés plus de 4 mois, attendant leur procès fondé sur des accusations mensongères, nées de la persécution des saints au Missouri. Pendant ce temps-là, les membres de l'Église étaient chassés de leur maison au Missouri par leurs persécuteurs, leur infligeant d'immenses souffrances. Les épreuves des saints furent une source de grande anxiété pour le prophète et ses compagnons au cours de leur long emprisonnement. La prison de Liberty disposait d'une chambre haute et d'un cachot de 4 mètres carrés, où étaient gardés les détenus. Le prophète a décrit leur situation comme suit. « Nous sommes gardés de près, nuit et jour, dans une prison avec des murs doubles et des portes doubles proscrits de notre liberté de conscience. Notre nourriture est maigre, uniforme et frustre. Nous ne pouvons pas faire notre propre cuisine. On nous oblige à dormir sur un sol recouvert de paille, et nous n'avons pas assez de couverture pour nous tenir chaud. Et lorsque nous pouvons faire du feu, nous sommes constamment enfumés. En quelques occasions, les juges nous ont dit solennellement qu'ils nous savaient innocents et que nous devrions être libérés, mais ils n'osent pas faire appliquer la loi par peur des émeutiers. Le plafond de la pièce n'était pas assez haut pour permettre à un homme de se tenir debout, et Alexander Macrae, un des prisonniers, a dit que la nourriture était très frustre et si dégoûtante qu'il ne pouvait la manger que poussé par la faim. Mercy Fielding Thompson, membre de l'Église qui a rendu visite aux frères en prison, a écrit plus tard. Je n'aurai pas la force de décrire ce que j'ai éprouvé après que le garde m'eut admise dans la prison et après que la porte eût été refermée derrière nous. Nous ne pouvions nous empêcher d'avoir un sentiment d'horreur quand nous nous sommes rendus compte que nous étions enfermés dans cet antre sombre et lugubre, bon seulement pour des criminels de la pire espèce. Mais devant nous se tenait Joseph, le prophète, l'homme choisi par Dieu dans la dispensation de la plénitude des temps pour détenir les clés de son royaume sur terre, avec le pouvoir de lier et de délier selon ce que Dieu ordonnerait, ainsi confiné dans une prison infâme, pour n'avoir rien fait d'autre que de déclarer avoir été inspiré de Dieu pour établir son Église parmi les hommes. Au cours de l'emprisonnement du prophète, sa femme Emma a pu lui rendre visite à 3 reprises uniquement. Leur seul autre moyen de communication était par courrier. Le 4 avril 1839, le prophète a écrit « Chère et tendre épouse, jeudi à la tombée de la nuit, je m'assieds devant le soleil couchant que l'on aperçoit furtivement par les barreaux de cette prison isolée pour t'écrire et t'informer de ma situation. Cela fait, je crois, 5 mois et 6 jours que je suis, jour et nuit, sous le regard sinistre d'un gardien et derrière les murs, les grilles et les grincements de portes métalliques d'une prison perdue, sombre et sale. Je t'écris cette lettre sous l'emprise d'émotions dont Dieu seul est témoin. D'écrire ou dépeindre les pensées de l'âme en de telles circonstances à des humains qui n'ont pas vécu ce que nous endurons défie la plume, la parole ou les anges. Nous nous appuyons sur le bras de Jéhovah et sur personne d'autre pour notre délivrance. » De la prison de Liberty, le prophète a également écrit des lettres aux saints, exprimant son amour pour eux et sa foi dans le constant soutien que Dieu accorde à ceux qui ont confiance en lui. La plupart de ce qui suit est tiré d'une lettre adressée aux membres de l'Église, datée du 20 mars 1839, contenant les conseils du prophète aux saints, ses supplications à Dieu et les réponses de Dieu à ses prières. Des parties de cette lettre sont devenues plus tard les sections 121, 122 et 123 des Doctrines et Alliances.
Enseignement de Joseph Smith. Aucune affliction ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, ni de la fraternité qui nous unit.
Votre humble serviteur Joseph Smith, fils, prisonnier à cause du Seigneur Jésus-Christ et des saints, capturé et tenu par le pouvoir de la rue, sous le règne exterminateur de son excellence, le gouverneur Lilburn W. Boggs, avec ses compagnons de captivité et frères bien-aimés, Caleb Baldwin, Lyman White, Hiram Smith et Alexander McRae vous adressent ses salutations à tous. Que la grâce du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ repose sur chacun de vous et demeure en vous pour toujours. Que la connaissance vous soit multipliée par la miséricorde de Dieu, et que la foi et la vertu, la connaissance et la tempérance, la patience et la piété, l'amour fraternel et la charité soient en vous en abondance, afin que vous ne soyez ni oisifs ni stériles en quoi que ce soit. 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 8. Car, comme nous savons que la plupart d'entre vous connaissent bien le mal, l'injustice et la cruauté tyrannique exercées sur nous, alors que nous avons été faits prisonniers, accusés faussement de toutes sortes de maux et incarcérés, enfermés derrière des murs épais, cernés par une garde renforcée qui nous observe jour et nuit, et qui est aussi infatigable que le démon lorsqu'il tente et piège le peuple de Dieu. C'est pourquoi, chers frères bien-aimés, nous sommes décidés à faire appel à votre fraternité et à votre amour. Car notre situation est conçue pour éveiller notre esprit au souvenir sacré de tout, et nous pensons qu'il en est de même pour vous, et ainsi rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu et de la fraternité qui nous unit. Romains chapitre 8, verset 39. Et toute espèce de méchanceté et de cruauté exercée contre nous n'aura d'autre effet que d'unir nos cœurs et de les sceller dans l'amour. Il est inutile de vous dire que nous sommes retenus captifs sans raison, ni que vous nous disiez « Nous sommes chassés de nos maisons et frappés sans raison ». Nous comprenons aussi bien les uns que les autres que si les habitants de l'État du Missouri avaient laissé les saints tranquilles et avaient été aussi pacifiques qu'eux, il n'y aurait rien eu d'autre que la paix et la quiétude dans l'État à ce jour. Nous n'aurions pas été dans cet enfer où nous sommes forcés de n'entendre que des jurons blasphématoires, d'être témoins d'une scène sacrilège, de beuverie, d'hypocrisie et de débauche de toute nature. De même, le cri des orphelins et des veuves ne serait pas monté à Dieu contre eux. Le sang innocent n'aurait pas entaché le sol du Missouri. C'est une histoire de malheur, une histoire de lamentation, oui, une histoire de tristesse, trop dure à raconter, trop dure à contempler, trop dure pour des êtres humains. Nos persécuteurs exercent ces choses sur les saints, qui ne leur ont fait aucun mal, qui sont innocents et vertueux, qui aiment le Seigneur leur Dieu et sont prêts à tout abandonner pour le Christ. Ces choses sont abominables à relater, mais elles sont vraies. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Matthieu chapitre 18, verset 7.
L'adversité ne dure qu'un bref moment. Si nous endurons bien, nous serons exaltés dans la présence de Dieu.
Ô Dieu, où es-tu? Et où est la tente qui couvre ta cachette? Combien de temps retiendras-tu ta main? Combien de temps ton œil, oui, ton œil pur, contemplera-t-il des cieux éternels les injustices commises à l'égard de ton peuple et de tes serviteurs? Et ton oreille sera-t-elle pénétrée de leurs cris? Oui, ô Seigneur, combien de temps souffriront-ils ces injustices et ces oppressions illégales avant que ton cœur ne s'adoucisse envers eux et que tes entrailles ne soient émues de compassion envers eux? Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, des mers et de tout ce qui s'y trouve, qui contient et soumet le diable et le domaine sombre et enténébré de Shéol, étends ta main, que ton œil perce, que ta tente soit relevée, que ta cachette ne soit plus couverte, que ton oreille soit attentive, que ton cœur soit adouci et tes entrailles émues de compassion envers nous. Que ta colère s'allume contre nos ennemis, et dans la furie de ton cœur venge-nous, par ton épée, des injustices que nous avons subies. Souviens-toi de tes saints affligés, ô notre Dieu, et tes serviteurs se réjouiront éternellement à cause de ton nom. Mon fils, que la paix soit en ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne seront que pour un peu de temps, et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'exaltera en haut, tu triompheras de tous tes ennemis. Doctrine et Alliance, section 121, versets 1 à 8.
Le pouvoir de Dieu surpasse tout mal, et les vérités de l'Évangile triompheront à la fin.
Je me permets de vous dire, frères, que l'ignorance, la superstition et la bigoterie mal placée entravent souvent le chemin de la prospérité de cette Église, comme le torrent de pluie qui descend des montagnes et submerge le ruisseau le plus pur et limpide de fange, de boue et de saleté, obscurcit tout ce qui était clair auparavant et emporte tout dans un déluge général. Mais le temps a raison des courants, et bien que nous soyons entraînés dans la boue de cette inondation en ce moment, au fil du temps, il se pourrait bien que d'aventure la vague suivante nous apporte la source d'eau claire, comme le cristal, et pure comme la neige, alors que la saleté, les débris et les ordures portées par le flot seront abandonnées et éliminées en chemin. Combien de temps des eaux qui coulent peuvent-elles rester impures? Quel pouvoir arrêtera les cieux? L'homme pourrait tout aussi bien étendre son bras chétif pour arrêter le Missouri dans son cours fixé, ou le faire remonter à sa source, qu'empêcher le Tout-Puissant de déverser la connaissance du haut des cieux sur la tête des saints des derniers jours. Doctrine et Alliance, section 121, verset 33. Le gouverneur Lilburn Boggs, ou sa bande d'assassins, est-il autre chose qu'une égreneuse plantée sur la berge pour attraper les débris de l'inondation? Autant débattre que l'eau n'est pas de l'eau, parce que les torrents de la montagne troublent de fange l'eau cristalline du ruisseau, bien que cela la rende encore plus pure par la suite, ou que le feu n'est pas du feu, car on peut l'éteindre en le noyant, plutôt que de dire que notre cause est finie parce que des renégats, des menteurs, des prêtres, des voleurs et des assassins, tous aussi tenaces les uns que les autres dans leurs ruses et leurs credos, ont déversé, du fait de leur iniquité spirituelle en haut lieu et de leur place forte tenue pour le diable, un torrent de boue, de fange et de saleté sur nos têtes. Non, loin de là, l'enfer peut bien répandre sa rage comme la lave incandescente du Vésuve ou de l'Etna, ou de la plus effrayante montagne en feu, mais le mormonisme tiendra. L'eau, le feu, la vérité et Dieu sont autant de réalités. La vérité et le mormonisme, Dieu en est l'auteur. Il est notre bouclier. C'est par lui que nous sommes venus au monde. C'est par sa voix que nous avons été appelés dans une dispensation de son évangile au début de la plénitude des temps. C'est par lui que nous avons reçu le Livre de Mormon. Et c'est par lui que nous avons subsisté jusqu'à présent, et par lui nous continuerons à subsister si c'est pour notre gloire. Et en son nom tout-puissant, nous sommes déterminés à endurer les tribulations comme de bons soldats jusqu'à la fin. Quand vous aurez lu ceci, et si vous n'êtes pas amené à l'apprendre, sachez-le. Que les murs et les fers, les portes et les charnières grinçantes, les gardes et les geôliers moitié morts de peur, ont été conçus dans leur nature profonde afin de rendre l'âme de l'homme honnête plus forte que les pouvoirs de l'enfer. Nous sommes vos frères et vos compagnons de souffrance, et nous sommes prisonniers de Jésus-Christ à cause de l'Évangile et à cause de l'espérance de gloire qui est en nous.
Le Sauveur comprend toute notre souffrance, et il sera avec nous pour toujours et à jamais.
Le Seigneur a réconforté le prophète par les paroles suivantes. Les extrémités de la terre s'informeront de ton nom, les insensés te tourneront en dérision, et l'enfer fera rage contre toi, tandis que ceux qui ont le cœur pur, les sages, les nobles et les vertueux chercheront constamment les conseils, l'autorité et les bénédictions de tes mains. Et ton peuple ne se tournera jamais contre toi à cause du témoignage des traîtres. Et bien que leur influence te cause des ennuis et te jette derrière les barreaux et les murs, on te tiendra en honneur. Encore un petit peu de temps, et à cause de ta justice, ta voix sera plus terrible au milieu de tes ennemis que le lion féroce, et ton Dieu se tiendra à tes côtés pour toujours et à jamais. Si tu es appelé à traverser des tribulations, si tu es en péril parmi de faux frères, si tu es en péril parmi des brigands, si tu es en péril sur terre ou sur mer, si tu es victime de toutes sortes de fausses accusations, si tes ennemis s'abattent sur toi, s'ils t'arrachent à la compagnie de ton père, de ta mère, de tes frères et de tes sœurs, et si tes ennemis t'arrachent à la pointe de l'épée du sein de ta femme et de tes enfants, et que ton fils aîné, bien que n'ayant que 6 ans, s'accroche à tes vêtements et dise « mon père, pourquoi ne peux-tu rester avec nous? Ô mon père, que vont faire ces hommes de toi? Et si on te l'arrache alors par l'épée, que tu es traîné en prison, et que tes ennemis rôdent autour de toi comme des loups assoiffés du sang de l'agneau? Et si tu dois être jeté dans la fosse, ou entre les mains d'assassins, et que la peine de mort soit passée sur toi? Si tu es jeté dans l'abîme, si les vagues houleuses conspirent contre toi, si des vents féroces deviennent tes ennemis, si les cieux s'enténèbrent et que tous les éléments s'unissent pour te barrer la route, et par-dessus tout, si la gueule même de l'enfer ouvre ses mâchoires béantes pour t'engloutir, sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui ? Maintiens-toi donc sur ta route, et la prêtrise restera avec toi, car leurs limites sont fixées, ils ne peuvent pas passer. Tes jours sont connus et tes années ne seront pas diminuées. C'est pourquoi ne crains pas ce que l'homme peut faire, car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. Doctrine et Alliance, 122, versets 1 à 9.
Le murmure doux et léger console notre âme dans les profondeurs du chagrin et de la détresse.
Peu de temps après qu'on eut permis au prophète d'échapper à ses ravisseurs au Missouri, il a évoqué les sentiments qu'il a eus durant son emprisonnement. « Je dois dire que pendant que j'étais entre les mains de mes ennemis, malgré mon anxiété au sujet de ma famille et de mes amis, traités et maltraités de manière inhumaine, j'étais pour ma part parfaitement calme et résigné à la volonté de mon Père Céleste. Je savais que j'étais innocent tout comme l'étaient les saints, et que nous n'avions rien fait qui méritait un tel traitement de la part de nos oppresseurs. Par conséquent, je comptais sur Dieu qui tient la vie de tous les hommes dans ses mains et qui m'a fréquemment sauvé des portes de la mort pour me délivrer. Et bien que toutes les voies d'évasion m'aient paru entièrement fermées et que la mort m'ait regardé droit dans les yeux et que ma destruction semblât inéluctable, du moins en ce qui concerne l'enveloppe charnelle, cependant, dès mes premiers pas dans le camp, j'ai ressenti la certitude que moi, mes frères et nos familles serions délivrés. Oui, ce murmure doux et léger qui a si souvent consolé mon âme dans les profondeurs du chagrin et de la détresse m'a dit de prendre courage et m'a promis la délivrance, ce qui m'a donné un grand réconfort. Et bien qu'il y ait eu un tumulte parmi les nations et que les gens aient imaginé des choses vaines, le Seigneur des armées, le Dieu de Jacob, a été mon refuge. Et quand je l'ai invoqué au jour de la détresse, il m'a délivré. Psaume 46, verset 7, Psaume 50, verset 15. Et mon âme et tout mon être en bénit et loue son saint nom. Car j'ai été pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 et 9.
Conseil pour l'étude et l'enseignement.
Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour vous préparer à enseigner. Réécoutez la description de la prison de Liberty, Missouri. Pendant votre étude et votre discussion sur ce chapitre, réfléchissez à la situation dans laquelle était le prophète lorsqu'il a rédigé les paroles citées dans ce chapitre. En quoi le récit fait par le prophète dans la prison de Liberty illustre-t-il cette vérité? À votre avis, comment les difficultés peuvent-elles quelquefois éveiller notre esprit à un souvenir sacré? De quelle manière les épreuves et les persécutions peuvent-elles lier nos cœurs à des membres de notre famille ou des amis? Quelles expériences avez-vous eues en rapport avec ces vérités? Joseph Smith a déclaré que rien ne pourrait le séparer, lui et ses frères, de l'amour de Dieu. Quelles sont vos pensées et sentiments quand vous méditez sur cette déclaration? De quelle façon pouvons-nous être séparés de l'amour de Dieu? Quelles sont certaines des choses que nous devons faire pour demeurer dans l'amour de Dieu? Que pouvons-nous faire pour recevoir la paix que nous offre le Seigneur? Quel bénéfice tirez-vous de l'assurance du Seigneur que l'adversité et les afflictions du prophète ne dureraient qu'un peu de temps? Réécoutez les promesses de Joseph Smith aux saints lorsqu'il dit que les ennemis de l'Église ne pourront rien faire pour freiner le pouvoir de Dieu. Pourquoi est-ce que nous oublions cette vérité parfois? Que pouvons-nous faire pour nous en souvenir? Pensez aux paroles du Seigneur au prophète dans ce chapitre. Comment notre vie peut-elle changer si nous nous souvenons que les épreuves peuvent nous donner de l'expérience et être pour notre bien? Que signifie pour vous de savoir que le Seigneur est descendu plus bas que tout cela? À votre avis, que veut dire « maintiens-toi donc sur ta route » Rappelez-vous quand le Saint-Esprit vous a réconforté dans un moment de difficulté. Avez-vous vécu une telle expérience et aimeriez-vous la raconter? Écriture en rapport avec le sujet. Philippiens, chapitre 3, versets 8 et 9. Mosia chapitre 23, versets 21 à 24. Alma chapitre 7, verset 11. Et chapitre 36, verset 3.